Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 190, la chasse aux anomalies. Aujourd'hui, Danny Plouf revient sur le balado. Pour rappel, Danny est un sceptique du Québec et il est aussi physicien. Et il s'intéresse beaucoup à la problématique de la chasse aux fantômes. Donc, la dernière fois qu'il était venu, il était venu nous parler de l'émission qui était passée à la TV québécoise de Rencontres paranormales. Aujourd'hui, on va discuter de certaines méthodologies utilisées par les chasseurs de fantômes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors comme ça, j'ai vu donc sur Facebook que tu allais donner une conférence sur les méthodologies des chasseurs de fantômes. Pour les auditeurs qui ne se souviennent peut-être pas de qui tu es, etc., comment est-ce que tu t'en es venu à t'intéresser à ce sujet-là?
En fait, je suis physicien. Depuis que je suis petit, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est paranormal, qu'est-ce qui sort un peu de la science. Au début, j'y croyais, et ensuite, ça a été un peu plus comme sceptique, mais j'essayais d'analyser ce qui se passait, sauf que je faisais pas un travail important ou quoi que ce soit, ça restait quand même dans ma tête. Puis, quand j'ai vu Rencontres paranormales, une émission de chasseurs de fantômes où il y a un médium qui contacte des entités de l'au-delà, j'ai trouvé que c'était aberrant en termes de présentation et de contenu. Entre autres, il y avait un médium qui faisait bouger une table et qui prétendait que c'était les esprits qui la faisaient bouger, mais de toute évidence, c'était lui qui la faisait bouger. Donc, j'ai décidé de faire un blog sur Internet. J'ai produit un blog pour expliquer les mouvements de la table. Puis ensuite, il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui sont venues en peu de temps. Ça suscitait un grand intérêt d'avoir ce genre d'explication-là. Donc, j'ai continué à analyser l'émission et je suis allé un peu plus général aussi, regarder ce que les chasseurs de fantômes font, entre autres. Et c'est ça.
Les chasseurs de fantômes, maintenant, c'est assez populaire depuis l'émission américaine Ghost Hunters. Mais moi, j'en connais quelques groupes dans la région, enfin en Belgique et dans le nord de la France. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de chasseurs de fantômes, ou mis à part le groupe qui était dans Rencontres paranormales au Québec?
C'est Paracontact qui était dans ce groupe-là. Oui, il y a d'autres groupes avec cette émission-là. Et je crois que ça a suscité l'intérêt. Je connais quelques groupes, pas tant que ça. C'est sûr qu'ils sont... Tu sais, c'est des gens qui font un travail, tu sais, de leur côté, c'est pas nécessairement diffusé dans les médias, mais oui, ça suscitait quand même un intérêt, puis il y a quand même plusieurs groupes de fantômes. J'ai pu voir un peu le travail de différentes personnes. J'étais en contact aussi avec des gens. Il y a des gens qui venaient voir mon blog aussi, puis ils disaient qu'ils étaient contents de pouvoir avoir une critique pour pouvoir améliorer leur travail, par exemple. Donc, il y a quand même une ouverture de ce côté-là.
Oui, est-ce que tu peux un peu décrire comment fonctionne un groupe de chasseurs de fantômes, par exemple? Enfin, forcément, ils entendent qu'ils découvrent un cas de maison hantée. Comment est-ce qu'ils procèdent?
Oui, ben c'est sûr que chaque groupe a ses techniques, mais il y a quand même des classiques qui reviennent souvent. Par exemple, on se promène avec un détecteur de rayonnement électromagnétique de basse fréquence, ce qu'ils appellent le EMF meter. Donc, ils se promènent avec ça, puis ça détecte lorsqu'il y a une champ magnétique qui apparaît quelque part, puis on considère que c'est possiblement dû à un fantôme. Il y a aussi des fois des photos, on prend plein de photos un peu partout. Des fois, il apparaît certaines choses étranges, des zones floues, ou sinon, il apparaissent des orbes qui sont des petites boules de lumière sur les images. Ensuite, souvent on se promène, puis ils prennent les sons, ils ont des enregistreuses, puis après ça ils réécoutent, puis des fois ils ont l'impression d'entendre des voix ou des bruits particuliers qui associent à des fantômes. C'est ce qu'on appelle les PVE, les phénomènes de voix électronique. Il y a aussi la température, on considère que si la température fluctue rapidement, c'est probablement dû à la présence d'un fantôme. Souvent, les fantômes vont préférer le froid plutôt que le chaud, pour une raison que j'ignore totalement. Ensuite, il y a aussi des gens qui utilisent, je sais que Paracontact, j'ai pas vu ça souvent, mais je sais que Paracontact utilise ça, un détecteur de mouvement. Il semblerait que les fantômes soient capables de passer devant un détecteur de mouvement puis de le faire allumer. Puis, en gros, c'est ça. Puis, il y a aussi des gens qui utilisent des baguettes de sourcier, des boussoles. C'est peut-être un peu moins commun, mais ça arrive. Puis, bien sûr, notre médium, ici au Québec, il utilise une table pour pouvoir contacter directement les entités. Donc, c'est un phénomène très direct. Mais en gros, c'est les étapes qui sont utilisées. Donc, ils se promènent dans la maison. Les chasseurs de fantômes, d'habitude, ils éteignent les lumières ou ils tamisent les lumières pour que ce soit relativement sombre. Ils se promènent avec leur lampe de poche. Ils ont leur instrument. Et ils essaient de détecter la présence d'entités avec toutes sortes, avec leurs instruments que j'ai expliqué avant, leur technique de mesure. En gros, ça résume leur travail.
Qu'est-ce qui te dérange dans cette manière de faire? Quelles sont les critiques que tu soulèves alors?
Non, déranger, je sais pas, tu sais, dans le sens que s'il y a des gens que ça les amuse, puis qu'ils le font par eux-mêmes, je veux dire, bon, c'est leur choix, puis si ça les amuse, tant mieux. Mais bon. C'est vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment une chasse à leur incompréhension. C'est que souvent ce que je remarque, c'est que ce qu'on considère comme être un fantôme ou la possibilité d'un fantôme, c'est ce qu'ils comprennent pas. Donc ils prennent toutes sortes de mesures, puis au moment qu'ils comprennent pas une mesure, pourquoi ils obtiennent telle mesure, puis oups, ça devrait être peut-être un fantôme. Donc, au lieu d'être essayé de comprendre pourquoi qu'ils obtiennent cette mesure-là, c'est le contraire. C'est toujours l'argument qu'on appelle par l'ignorance. Donc, c'est comme je dis, on comprend pas quelque chose, donc il y a un fantôme. Ce qui est quand même assez, je dirais pas ridicule, mais je veux dire, c'est trompeur. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on comprendra pas. Plus qu'on prend de mesures, plus qu'il va y avoir des choses qu'on comprendra pas. Mais le but d'un scientifique, par exemple, ça va être de comprendre ces choses-là, donc de pousser plus loin. Mais à ce que j'ai vu, les chasseurs de fantômes poussent jamais plus loin leurs mesures. Ils la poussent rarement loin, en fait, parce qu'en fait, ils restent à des trucs très très fondamentaux. Par exemple, ce qu'on appelle les EMF meters, les détecteurs de rayonnement électromagnétique. En fait, ces instruments-là, c'est qu'ils se promènent. Vous avez sûrement déjà vu ça. Il y en a que c'est ce qu'on appelle le K2, qui c'est des lumières qui allument. C'est utilisé par Ghost Hunter aux États-Unis. C'est des lumières qui allument, qui passent du vert au jaune au rouge. Puis tout dépend de l'intensité, ben ça s'allume, ça s'allume vers le rouge, sinon c'est vers le vert. Il y en a qui sont aussi analogiques. Puis donc, ils se promènent avec ça, puis ils essaient de détecter le rayonnement électromagnétique. En fait, c'est le rayonnement électromagnétique qui sont très, très, très basse fréquence. C'est de l'ordre du 30, ça peut mesurer entre le 30 Hz et à peu près le 20 000 Hz, ce qui est extrêmement bas. Donc, ils se promènent avec leur instrument, puis oups, des fois, il y a des fluctuations. Fait que là, ils se disent, ah, il y a peut-être un fantôme ici. Sauf que, ce qui arrive, c'est que ces instruments-là, ils ont été construits pour détecter le rayonnement électromagnétique qui est émis par les fils électriques. Donc, quand il passe du courant dans un fil, ça émet un rayonnement électromagnétique. Parce que en Europe, ça fonctionne à 50 Hz, le courant oscille à 50 Hz. Donc, 50 fois par seconde, il va changer de direction. Donc, il y a une oscillation qui se fait le coup du courant, puis ça produit une onde électromagnétique. En Amérique du Nord, nous, c'est 60 Hz que ça fonctionne, mais l'instrument peut détecter les deux. Donc, ces instruments-là sont faits pour détecter cette oscillation-là. Fait que ce que les chasseurs de fantômes vont faire, ils vont dire, on va fermer les lumières, comme ça, il n'y aura pas de courant. Sauf que le problème, c'est qu'il y a toutes sortes de raisons pour que le courant peut circuler. Premièrement, ça peut être quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement vu. Ils peuvent avoir laissé un instrument quelque part ouvert. Ça peut être leurs propres instruments qui tiennent sur eux aussi, qui émettent dans ces fréquences-là. Puis aussi, ça peut être que le voisin il allume une lumière ou le voisin allume une télé ou quelque chose comme ça. C'est que les circuits électriques sont pas indépendants les uns des autres totalement. Sûrement que les gens ont connu ça quand ils étaient ceux qui sont un peu plus vieux, ils vont comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, quand on était plus jeune, puis qu'on écoutait la télé, puis que notre mère cuisinait, puis qu'elle allumait un de ces instruments qui prenait beaucoup d'énergie, on voyait comme ça se mettait à gricher ou il se passait quelque chose dans la télé. L'image changeait ou il y avait quelque chose qui ça faisait comme osciller la télé ou l'image, je veux dire. Mais ça, c'est que ça montre que les circuits sont connectés entre eux. Puis si le voisin le fait aussi, ça peut avoir une influence. Donc le rayonnement électromagnétique peut avoir plein de raisons. Puis en plus, je sais pas si c'est la même chose en Europe, mais ici, ce qu'on appelle le ground, la mise à la terre, elle est faite dans le circuit, elle est faite au niveau du système d'aqueduc. Fait qu'il peut y avoir du courant qui passe dans le système d'aqueduc. Ce qui fait que ça fait une autre source de rayonnement électromagnétique. Fait que de se promener puis de déduire qu'il y a un rayonnement électromagnétique, puis de déduire que c'est le fantôme qui a émis ça, c'est absurde. On peut pas le savoir, je veux dire. En fait, ces instruments-là, ils sont utilisés pour détecter les anomalies. Ils sont pas détectés. Ils sont pas utilisés pour détecter les fantômes.
Oui, donc ça, c'était les détecteurs IMF. Oui. Au niveau des autres engins qu'ils utilisent, qu'est-ce que tu en penses?
Juste un petit point par rapport à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les chasseurs de fantômes, selon eux, les fantômes aiment beaucoup tout ce qui est ondes électromagnétiques. Parce que les ondes électromagnétiques, peuvent avoir différentes fréquences, puis tout dépendant que sa fréquence a des propriétés différentes. La lumière visible, c'est une onde électromagnétique. C'est la même chose que des ondes radio, que des micro-ondes, que des infrarouges, ultraviolets, tout ça. C'est la même chose, c'est juste que ça a une fréquence différente. Puis parce que ça a une fréquence différente, ça interagit différemment avec la matière. La seule chose qui peut produire des ondes électromagnétiques, c'est des charges. C'est ça qui va produire, c'est l'oscillation des charges. Puis ce qui peut faire en sorte d'absorber une onde électromagnétique ou d'interagir avec ça, c'est une autre charge, c'est un autre ensemble de charges. Puis que les ondes électromagnétiques sont associées aux charges nécessairement. Donc tout ça ensemble, c'est que ça fait en sorte que ce qui est drôle, c'est que les chasseurs de fantômes aiment beaucoup les ondes électromagnétiques. Premièrement, il y a les détecteurs EMF qui sont utilisés, donc c'est une fréquence. Après ça, il y a supposément que les fantômes font des orbes, des orbes, des petites boules de lumière. Donc ça, c'est dans le visible. Après ça, ils peuvent émettre du rayonnement infrarouge, semble-t-il, parce qu'il y a des détecteurs de chaleur qui peuvent les détecter. En fait, c'est ça. Donc, ils émettent dans plusieurs fréquences, mais ce qui est drôle, c'est que ils aiment pas la lumière, semble-t-il. Faut garder d'en émettre. Ils n'ont pas de problème avec l'infrarouge parce que les chasseurs de fantômes souvent se promènent avec des caméras infrarouges qui est une fréquence qui est tout proche du visible. Toute la lumière visible puis l'infrarouge c'est proche. Fait que ce que je disais c'est dans ma présentation entre autres c'est que les fantômes sont extrêmement capricieux semble-t-il. Mais pour revenir à ça donc l'autre phénomène c'est la lumière donc les petites boules de lumière qui émettent dans leur sur les photos qu'on peut voir sur les photos. Donc les gens ont peut-être déjà vu ça, par exemple, sur une photo, il apparaît juste un point blanc. Ou sinon ça peut être sur caméra qu'on voit passer une petite boule de lumière. Sauf que ce qui est drôle avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'en ai vu de ces petites boules de lumière-là, c'est toujours associé avec une caméra qui émettait elle-même de la lumière. Qu'est-ce qui arrive quand une caméra émet elle-même de la lumière? C'est que la lumière peut rebondir sur un objet qui est proche, par exemple une particule. Par exemple, ça peut être une poussière, ça peut être un insecte. Ça reflète là-dessus et ça revient vers la caméra. Puis la lumière est très intense parce que l'objet est proche puis que la caméra émet elle-même sa lumière. Ce qui fait en sorte que c'est sûr qu'il va y avoir des points qui vont apparaître, c'est sûr qu'il va y avoir des orbes. C'est simplement une réflexion sur une poussière ou sur un insecte ou un objet comme ça, très petit. Puis étant donné que c'est très proche, le focus est fait derrière la caméra. Le focus de la caméra est fait derrière l'objet. Donc, ça fait en sorte que ça devient flou, ce qui fait en sorte qu'on voit un point lumineux, comme une petite boule de lumière qui est floue. Dans tout ce que j'ai vu à date, les petites boules de lumière, c'est presque toujours expliqué par une poussière ou par un insecte qui passait devant. Puis c'est drôle, des fois, j'ai vu une vidéo dans laquelle des chasseurs de fantômes disaient qu'il y avait qui pensaient que c'était un fantôme, parce qu'il était dans un cimetière, mais tu sais, juste le mouvement, c'est évident que c'était un insecte, là, qui était proche de la caméra, là. C'est ça, puis c'est drôle parce que c'est qu'ils vont dire que c'est les fantômes qui émettent la lumière, mais pourquoi qu'ils ont besoin de lumière? Pourquoi qu'il faut qu'il y ait des caméras qui émettent la lumière s'ils essaient de voir des fantômes qui émettent eux-mêmes la lumière? C'est absurde. Tu sais, si je veux filmer le soleil, j'utiliserai pas un flash, là. J'utiliserai pas quelque chose pour émettre de la lumière vers le soleil. C'est pas nécessaire. Je veux dire, c'est absurde, mais ça, c'est le genre d'erreur que les chasseurs de fantômes commettent, que je considère que ça ajoute une source d'erreur. On est sûr qu'il y a une source d'erreur. Mais pour revenir rapidement aux orbes, il y a pas seulement les poussières qui peuvent faire ça. Il y a aussi le phénomène, désolé, je sais pas comment le dire en français, mais de flare. C'est quand on prend une photo, puis que le soleil est pas sur la photo, court, mais est proche de notre champ de vision. Ça fait en sorte qu'il peut apparaître des boules, des petits cercles blancs dans l'intérieur de la photo. C'est un phénomène que les gens ont déjà sûrement vu. Donc il y a ça. Sinon, des fois, c'est une lumière au loin, par exemple. Si je prends une photo le soir, ben ça pourrait être un lampadaire qui est beaucoup plus loin que je prends photo, puis ça peut apparaître une petite boule blanche là. Mais en gros, c'est les sources habituelles de orbes.
Oui, ce qui est marrant, c'est que les chasseurs de fantômes, ils adorent la technologie, comme ça. Ils sont technophiles, comme on dit. Ils utilisent toutes sortes d'appareils. Oui, et puis, comme tu dis, quoi, ils attribuent des propriétés physiques aux fantômes, alors que le problème de fond, c'est qu'on sait pas quelle propriété un fantôme est supposé avoir, quoi. Comme tu dis, ils disent pourquoi est-ce que le fantôme serait lié au froid, mais pourquoi est-ce qu'un fantôme émettrait du froid, et ils mettent la charrue avant les bœufs, non, enfin.
Ouais, mais c'est un raisonnement circulaire souvent qui est fait par rapport à ça. Puis souvent c'est l'argument par l'ignorance. C'est parce que j'ai jamais connu un physicien qui considérait que les fantômes existaient. En tout cas, moi personnellement, il y en a peut-être là. C'est très possible qu'il y en ait peut-être un ou deux dans le monde, mais tu sais, des gens qui sont allés, mettons, jusqu'au doctorat, maîtrise du doctorat en physique, je veux dire, pourquoi que ces gens-là considèrent que c'est non crédible? Je veux dire, les rayonnements électromagnétiques étaient très, très étudiés par les physiciens. S'il y avait une anomalie quelque part, parce que si jamais les fantômes sont capables d'émettre du rayonnement électromagnétique par eux-mêmes, ça voudrait dire qu'on pourrait construire une boîte, ce qu'on appelle une cage de Faraday, ce serait un truc qui serait complètement fermé du reste de l'univers, disons, en termes de rayonnement, puis pour avoir un fantôme qui va là-dedans puis qui émet lui-même son rayonnement. Donc, on pourrait avoir un rayonnement à l'intérieur d'une boîte dans laquelle on n'est pas supposé d'en avoir. Fait que, tu sais, le fantôme pourrait aussi venir dans les laboratoires de physique. Pourquoi que les fantômes ne viennent pas dans les laboratoires de physique? Ils pourraient démontrer qu'ils existent. Ce serait facile. Donc, je joue avec les instruments déréglés, faire en sorte que les mesures sont incohérentes. On s'en rendrait compte. Parce que souvent, en fait, les chasseurs de fantômes vont dire « Ouais, mais c'est à l'extérieur de la science, c'est à l'extérieur de la physique actuelle. » Mais sauf que pour le savoir, il faut d'abord le tester, puis c'est pas ça qu'ils font. Ils testent pas si c'est à l'extérieur. En fait, sans vouloir être méchant, tous les chasseurs de fantômes que j'ai pu entendre ou que j'ai pu voir, c'était des personnes qui avaient une ignorance par rapport à la physique. J'ai jamais rencontré un chasseur de fantômes qui comprenait très bien c'est quoi le rayonnement électromagnétique. Donc, j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui prétendent savoir que des fantômes existent, alors à cause de mesures qu'ils prennent, alors qu'ils comprennent même pas ces mesures-là. C'est carrément ça. Quand ils prennent des mesures de rayonnement électromagnétique, de EMF meter, tu sais, ce qui pourrait les détecteurs EMF, ce qui pourrait faire, c'est de retirer les de 50 puis de 60 Hz, donc la fréquence qui proviennent dans des fils électriques et tout ça, mais c'est pas ça qu'ils font. Ils prennent pas ce genre d'instrument là, ils font exprès pour qu'il y ait un biais, tu sais. C'est pas volontaire nécessairement, c'est pas méchamment, tu sais. Il y a des gens qui ont l'impression de faire un travail. J'ai parlé à des gens qui sont chasseurs de fantômes, puis ils ont l'impression de faire un travail important, puis tu sais, pour eux, ils sont passionnés, puis tu sais, ils essaient de trouver des preuves et tout ça. C'est pas une mauvaise volonté, mais c'est juste qu'ils ont des très mauvais enseignants là-dessus. Tu sais, comme Ghost Hunter, t'sais. Pourquoi Ghost Hunter aux États-Unis, ils ont jamais invité de physiciens ou qui ont jamais fait analyser par des physiciens ou tu sais, des ingénieurs électriques ou quoi que ce soit? T'sais, premièrement, eux, de toute évidence, ils trichent. Donc, ça explique en partie, mais c'est juste que ça donne des mauvais exemples aux autres. Les autres suivent ça parce qu'ils considèrent que c'est un modèle. C'est évident, des fois qu'ils trichent, on le voit sur des vidéos que j'ai regardées. Le détecteur EMF, ils tiennent d'une façon qu'ils peuvent eux-mêmes l'allumer. Puis ils peuvent eux-mêmes faire osciller les lumières. Donc, c'est évident que c'est eux autres qui font osciller. Puis qu'ils se promènent des fois, puis oups, ils font en sorte que le fantôme répond à des questions, mais c'est eux autres même qui ont le doigt sur le bouton pour faire aller les lumières, là.
Ou je ne sais plus aussi quel sceptique avait été sur le plateau de TV d'une de ses émissions, et il, en plus il y a tellement d'émissions maintenant de ce style-là, mais ils avaient détecté avec l'infrarouge la forme d'un être humain contre un mur, et simplement le sceptique se souvenait que 5 minutes avant il y avait un preneur de sang qui s'était reposé sur le mur, quoi. Mais ça devenait une super preuve.
Ouais, c'est le genre de choses qui arrivent, mais c'est ça, c'est toujours « Ah, parce que je comprends pas » ou « Ah, parce que j'ai pas d'explication, je vais l'attribuer à un fantôme. » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que les gens, ils pensent que l'hypothèse A, B, C qui existe, ils réussissent à éliminer A et B, donc ils considèrent que c'est C. Mais ils ont pas pensé que D peut exister, ou E peut exister, ou F peut exister. Fait que c'est par leur connaissance limitée, ils vont aller avec leur hypothèse limitée, puis après ça, ils vont considérer, puis il n'y a pas de validation qui est faite. Mais comme je disais, c'est quoi les propriétés d'un fantôme? Puis comment on sait que c'est les propriétés des fantômes? Ah, ben, ils vont dire, ah, c'est parce qu'on le détecte. Ouais, mais comment vous savez que ça vient du fantôme? C'est pourquoi que c'est pas des martiens qui nous jouent des tours, hein?
Quand tu essayes d'en parler avec des chasseurs de fantômes, tu essayes de leur expliquer ça, est-ce que tu as l'impression qu'ils t'écoutent, ou quelles sont les réactions?
Il y a des gens que, il y a déjà quelqu'un qui m'avait remercié pour avoir fait une critique de la chasse aux fantômes. Fait que je sens que certains groupes ont une réceptivité. À un moment donné aussi, j'étais allé sur un groupe de chasseurs de fantômes. J'ai pas parlé sur Facebook, je m'étais inscrit à un groupe de chasseurs de fantômes. J'ai pas parlé, j'ai absolument rien dit, puis on a fini par me bannir. Je sais pas pourquoi. Je suis même pas intervenu. Donc, comme je disais, ça varie beaucoup en termes de réceptivité. Il y en a qui sont réceptifs, mais il y en a qui ne sont pas. Je serais intéressé à y aller. Si on m'invite à aller faire une chasse aux fantômes, je serais intéressé à y aller et les accompagner. Mais c'est sûr que je vais garder un esprit critique. Enfin, il y avait déjà eu un groupe de chasseurs de fantômes qui m'avait invité à y aller, mais j'avais pas le droit d'utiliser mon esprit critique. Donc, c'est pas très intéressant, là. Donc, faut que j'aie la possibilité. Mais bon, tu sais, comme on le sait, les sceptiques font fuir les esprits, font fuir les énergies et tout ça associé au paranormal. Donc, peut-être qu'il ne se passerait rien. Donc, c'est peut-être pas avantageux d'emmener un sceptique ou un physicien dans la place. Mais j'ai pensé à ça, ce qu'on pourrait faire, les sceptiques, c'est offrir un service pour déloger des esprits dans les maisons. Parce que souvent, les sceptiques repoussent les esprits, les fantômes. Fait que si on se rend dans les maisons qui sont hantées, ben peut-être qu'on va faire fuir les esprits. Donc, on pourrait offrir un service de nettoyage de fantômes.
Juste pour être vraiment clair sur ça, mais voilà, eux, ils disent qu'ils font de la... qu'ils utilisent la méthode scientifique, mais...
Non, c'est pas du tout, là. Je veux dire, juste le fait de prendre des mesures qu'ils comprennent pas, c'est pas de la méthode scientifique. Tu sais, il faut qu'il y ait une validation qui soit faite, il faudrait qu'ils écrivent, qu'ils publient un article dans Nature, s'ils veulent faire de la recherche scientifique, ou qu'ils publient dans une revue crédible, pas dans une revue de paranormal, mais dans une vraie revue, puis là, on verra, tu sais, il y a des gens qui vont critiquer, qui vont emmener ou confirmer, mais de ce que j'ai vu, tous les groupes de chasseurs de fantômes que j'ai vus, c'était pas très sérieux. C'est juste, rencontre paranormale, c'était pas sérieux, le groupe, là. C'est n'importe quoi, c'est comme le détecteur de mouvement qui disent oh, on a lancé un ballon dans le détecteur de mouvement, puis il est pas très sensible, fait qu'il a pas allumé, c'est pour montrer que le détecteur était pas extrêmement sensible, pour montrer que c'était pas n'importe quoi qu'il fallait faire bouger, mais c'est juste que le détecteur de mouvement, ce qui fonctionne, c'est qu'il détecte en fait des variations dans l'infrarouge. C'est pas le mouvement qu'il détecte, il est pas capable de détecter le mouvement. En fait, ceux qui sont utilisés habituellement, ils sont pas capables de détecter le mouvement en tant que tel. C'est une variation dans l'infrarouge. Donc, si un objet qui a la même température que le mur, par exemple, ben ça fait en sorte qu'il, c'est sûr qu'il sera pas détecté. Il faut que ce soit quelque chose qui soit plus chaud que le mur. Fait que, mais ça, c'est pas des choses qui tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils ont pas compris comment ça fonctionnait. Donc, même l'instrument lui-même, ils comprennent pas. Je connais une femme qui faisait partie d'une équipe de chasseurs de fantômes. Puis, tu sais, au début, elle a été attirée par ça, ce qu'elle trouvait que ça valait crédible avec les instruments, puis c'était une équipe qui était passée à la télé aussi, puis qu'elle a fini par entrer dans l'équipe, tu sais, elle a travaillé avec eux, mais elle a fini par sortir, elle trouvait des choses qui étaient louches, c'est ça, puis tout le temps qu'elle était là, même si elle était suivie, elle était aidée par quelqu'un qui était supposément un expert de chasse aux fantômes, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas appris. Je m'en suis rendu compte surtout en lui expliquant différents concepts, différents concepts qui sont liés à la chasse aux fantômes, à la physique, par exemple, que j'ai parlé plus tôt, les ondes électromagnétiques et tout ça. Puis c'est toutes des choses qu'elle avait jamais apprises pendant son chasse aux fantômes. Donc, ça montre que même ceux qui sont supposément experts ne comprennent pas vraiment, ils transmettent même pas aux gens. Ils transmettent même pas aux gens les risques de ce qu'on appelle de pollution par du bruit ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est une confirmation que les chasseurs de fantômes, souvent, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils mesurent, ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Pas nécessairement par mauvaise volonté, mais bon. Je crois que c'est une réalité là, du moins quand on connaît les principes fondamentaux de la physique, on a une vision totalement différente.
Et avant le début de l'interview, tu me disais donc que tu as donné une conférence sur ce sujet, et puis que tu allais en donner une bientôt sur un autre sujet. Alors, comment ça s'est passé d'abord ta conférence sur la chasse aux fantômes, et puis annonce un peu la conférence suivante que tu vas donner.
Ah, c'est bien passé, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pu donner un cours de physique aux gens en ayant un intérêt autre que la physique elle-même, dans le sens qu'il y avait un divertissement en même temps qui était des extraits d'une émission de chasse aux fantômes. Donc ça permettait d'avoir un point de départ pour enseigner des concepts de base de physique. Je suis content, je pense que les gens ont compris au moins certains concepts reliés aux ondes électromagnétiques. Puis ensuite, je vais faire une autre conférence. Celle-là va être à Sherbrooke. C'est à environ 1h30 de Montréal, vers l'est. La conférence s'appelle Science, Superstition et Dragon Magique. Donc, pour cette conférence-là, mon but, c'est de présenter un dragon magique et de les convaincre que c'est bel et bien un dragon magique. Donc, j'utilise le dragon de Carl Sagan, qui est utilisé, entre autres, qui utilise comme exemple dans son livre. J'ai cet exemple-là, donc j'essaie d'argumenter comme quoi que j'ai vraiment un dragon magique. Puis ensuite, je me sers de cette argumentation-là pour montrer que souvent, on utilise ce même type de raisonnement pour expliquer toutes sortes de phénomènes ou pour se convaincre que telle chose existe ou tel phénomène est vrai.
Oui, le livre en question de Carl Sagan, c'est The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark, qui est vraiment un classique des sceptiques. Mais à ma connaissance, il n'est pas traduit. Il est traduit au Québec, non?
Je crois pas qu'il ait été traduit. J'ai lu la version originale, donc je ne crois pas. Malheureusement, c'est dommage parce que on n'a pas beaucoup de livres sceptiques, disons, au niveau en français. On n'a pas beaucoup de livres de ce genre-là, malheureusement, mais bon.
Rappelle une dernière fois la date de ta conférence.
Oui, ça va être le 28 février à Sherbrooke, au Musée des sciences de Sherbrooke. Donc, ça va être à 19h, excusez-moi. Donc, juste à chercher le Musée des sciences de Sherbrooke et vous allez trouver la conférence qui est annoncée.
Ok, super. Merci en tout cas d'être venu sur le balado.
Merci beaucoup.
triumph of science.